Alors c'est fini pour la première partie de notre émission où toutes ces rubriques s'enchaînent un petit peu les unes et les autres et on va maintenant passer au deuxième temps, la discussion qui nous occupe à chaque fois à la fin de l'émission. Alors on va peut-être commencer par la COP21 qui est quand même pas très bien partie, de nombreux scientifiques mettent en doute très fortement l'objectif d'atteindre les 2 degrés.
Bien, la COP21 a souvent été présentée comme une conférence de la dernière chance, la dernière chose à faire pour pouvoir sauver la planète, mais il faut quand même regarder les choses en face. Pour l'horizon 2050, c'est déjà trop tard. Mmh. Et la COP21, pour l'instant, me semble être plutôt pour l'horizon 2100. Et donc, même s'il faut prévoir à l'avance, l'objectif des 2 degrés pour 2050, à mon avis, c'est déjà trop tard.
Ça paraît inatteignable.
Ouais, cette rhétorique de la dernière chance, on l'utilisait déjà à Copenhague en 2009, ce qui a absolument pas marché. Et même dans les rapports du GIEC, les prédictions les plus optimistes
dépassent 2 degrés de toute façon.
Exactement, et sont déjà catastrophiques. Donc, oui, pour 2050, c'est clair que c'est foutu.
Donc, en fait, c'est plutôt un moyen, on a le sentiment quand même que c'est plutôt un moyen pour François Hollande de faire de la politique intérieure. Une immense conférence internationale au mois de décembre, pendant des élections régionales qui s'annoncent. Très difficile.
Voire catastrophique. Pour son parti, en tout cas.
Alors, après, il y a aussi une volonté internationale derrière. C'est-à-dire que la France prend beaucoup de soin à organiser ça, effectivement, en lien avec ses échéances. Mais on a aussi une espèce de volonté internationale de faire quelque chose. Et malheureusement, qui se traduit souvent par taper un peu des coups dans l'eau pour se donner bonne conscience et continuer sur la même voie ensuite. Alors à Copenhague, l'échec a été tellement retentissant qu'on n'a même pas pu se donner bonne conscience après. Là, malheureusement, même si les États arrivent à s'entendre, il est possible que, il est même très probable que ce ne soit pas un virage suffisant.
C'est vrai que là-dessus, je te rejoins assez fortement, Maxime. On a un peu l'impression que la COP21 est une conférence pour se donner bonne conscience. Mais qu'au final, derrière, elle ne donnera pas grand-chose de tangible.
Oui, parce que tu le notais, la volonté de mettre en place une autorité qui pourrait sanctionner les États, ça paraît quand même un petit peu utopique.
Oui, tout à fait. Et puis c'est pas du tout dans la lignée des politiques actuelles qui vont au contraire vers le libéralisme, donc c'est-à-dire de l'autonomie pour les États et même des États plutôt faibles, de l'autonomie en fait pour les firmes. Or, les firmes ne sont pas liées par cet accord. Hein. La COP21, c'est bien un accord entre États. Donc c'est un des problèmes qui se posent, c'est que finalement des acteurs qui sont très importants aujourd'hui, et notamment des acteurs économiques, ne sont pas tenus de respecter l'environnement. Alors après, les tenants du libéralisme vous diront que du fait de la nécessité finalement d'adapter l'économie, puisque sinon l'économie va être morte après l'ère du pétrole et si l'humanité s'éteint, évidemment,
oui,
c'est mauvais pour les affaires.
Les firmes s'adapteront.
Le problème, c'est que on a un problème en fait de court terme, c'est-à-dire qu'il faut agir tout de suite. On ne peut pas se reposer sur d'éventuelles innovations technologiques ou des politiques plus tard. Il faut vraiment agir maintenant, et ça, l'économie a du mal à le faire, a du mal à se projeter aussi loin.
Oui,
on est dans des temps où les affaires se font à la milliseconde. On a du mal à penser sur le siècle. Hein, ça, c'est...
Oui, et puis de toute façon, ce sont toujours les mêmes organisateurs et les mêmes acteurs. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup changé depuis un certain temps, on doute fort que les mêmes qui ont fait échouer le précédent sommet puissent faire réussir celui-là. Bon, c'est plus le même dirigeant chinois, mais enfin, quand même, entre Hu Jintao et Xi Jinping, mis à part, dans le cas de Xi Jinping, une passion pour le culte de la personnalité plus importante, c'est un peu du pareil au même.
Voilà. Oui. Alors, j'aimerais réagir un petit peu à ta chronique scientifique, Léo. Ça vous a fait peur, vous, quand vous avez vu tout ça sortir, la viande ? Êtes-vous devenu végétarien ?
Non.
Ouais, c'est vrai que le coût environnemental de la viande, ne serait-ce que lui, est tout seul assez flippant hein, quand on voit...
C'est peut-être plutôt ça, une bonne raison de devenir plutôt végétarien.
Oui. C'est une question assez importante, puisqu'effectivement, pour nourrir une vache, on a besoin de mobiliser d'immenses surfaces de soja, par exemple, qui vont être à l'autre bout de la planète. Enfin, vraiment, c'est des coûts environnementaux catastrophiques qui contribuent pleinement... au changement climatique.
Sans compter les viandes qu'on importe, quand on a de la viande d'Australie dans nos assiettes, bœuf d'Australie...
Oui, bien sûr, Bon, du kangourou, là, on n'a pas trop le choix.
Non, je disais en un sens, étant donné les ravages qu'on sait de l'agriculture industrielle, l'agriculture intensive, bon, c'était pas tellement surprenant qu'il finisse par y avoir des problèmes de ce type.
Bien sûr.
Voilà. Un peu comme l'histoire du gluten dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est exactement ça.
Et surtout que l'étude du CIRC, donc, s'appuyait beaucoup sur une étude de l'OMS,
mais qui est en fait faite sur les viandes américaines, donc des bœufs nourris au soja transgénique, des viandes transformées en plus, des viandes cuites genre barbecue, etc. Donc c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est difficile de convertir ça vraiment tel quel à la culture de la consommation de viande en France. Ça, c'est clair.
Et puis après, on a pu voir aussi plus globalement au niveau des réactions qu'il y avait à cette nouvelle, des réactions généralement assez sarcastiques, du style « il est prouvé que vivre peut tuer ». Donc on sent presque à la lumière...
La question fâche un petit peu, quoi, oui.
Bah, plutôt qu'à la lumière de cette question, que la culture, qu'il y a une culture du risque et du principe de précaution qui commence à agacer.
Oui, c'est ça. Oui.
Dans le sens où on prend tellement de précautions sur certaines choses que le climat en devient très anxiogène. Et pourtant, il faut bien rappeler, et c'est ce que je rappelais à la fin de la chronique, que oui, effectivement, vivre comporte un risque de mourir. Et que la quête de vivre le plus longtemps possible, eh bien, on part peut-être sur une question un peu plus philosophique. Mais c'est vrai que ce principe de précaution qui est en train de se développer dans l'ensemble de la société, et pas seulement au niveau sanitaire, est en train de provoquer une contre-réaction avec généralement des théories du complot. On peut le voir notamment au niveau vaccinal. Et qu'au final, à trop faire de sécurité, eh bien, au final, on perd la confiance.
Ouais. Mais ce qui est quand même assez étrange avec ce principe de précaution, c'est qu'il est quand même extrêmement sélectif. Je ne sais pas, bon, on parle de cette affaire de viande, mais pour parler un peu de questions nucléaires, c'est vrai que, par exemple, aucun média ne parle de ce qui peut encore se passer à la centrale de Fukushima, au Japon, par exemple. Là, il y aurait vraiment
quelques précautions. On pourrait parler de ce qui peut se passer à la centrale du Bugey, qui est à quelques dizaines de kilomètres d'ici, si vous voulez.
Voilà. Non, mais je pense qu'il y a
quand même. On la voit depuis Fourvière.
Je pense qu'il y a quand même un aspect sélectif à cette espèce de principe de précaution qui fait qu'on surmédiatise certains éléments pour mieux en masquer d'autres.
Ouais, comme d'habitude, on médiatise les événements qui font parler d'eux pendant un moment, et puis ensuite, au bout de. Ouais. Les gens se lassent assez rapidement. Et ça, c'est.
Alors, passons à Michel Onfray.
Mon grand ami.
Ton grand ami. Bon, je vais le défendre un petit peu quand même. On peut pas non plus tout remettre en cause. L'Université Populaire, c'était tout de même au moins dans ses origines un beau projet.
Non, mais là, bon, il s'agissait, vous aurez compris, ma chronique avait quelques aspects pamphlétaires. Et donc,
oui,
voilà,
je pense qu'on l'a compris.
Si elle se voulait néanmoins légèrement informative. Oui, non, bien sûr, l'Université...
Légèrement.
Oui, plus que légèrement. Non, mais bien entendu, l'Université Populaire, c'est un très beau projet, et je pense que Michel Onfray participe aussi à des initiatives qui peuvent être utiles. Moi, ce que je ne remets pas en cause, c'est forcément son travail sur le terrain, même s'il est vrai quand même qu'une récente étude sur l'Université Populaire montrait, je sais pas si on peut, elle n'a pas échoué dans ses buts, mais il est vrai quand même que le public, pour une raison de temps en fait, est essentiellement composé de retraités.
Oui.
Et ça, c'est quand même un problème pour un métier d'éducation populaire. Mais bon, voilà, je veux dire, il a vraiment fait ce qu'il a pu dans les limites du budget, sans aide extérieure. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que ce projet était au départ pour lutter contre le Front National.
Oui, voyez, les temps changent.
Et d'ailleurs, à l'époque, il disait oui, ce sera un exemple de la micro-résistance deleuzienne au micro-fascisme. Voilà. Deleuze est passé à la trappe et. Et voilà, et il ne parle plus de Gilles, encore un autre divorce dans la famille.
Mais bon, et c'est vrai que dès qu'il sort de ce cadre, il a des prises de parole, médiatiquement parlant, qui sont
délirantes.
Qui sont délirantes, oui.
Je pense qu'il y a deux phénomènes, en fait, dans ce problème. C'est-à-dire que le premier, c'est à la fois le trop-plein. Et je pense vraiment, je n'aime pas énormément Yann Moix, mais je trouve qu'il avait tout à fait raison en lui disant « Mais parce que vous parlez tout le temps, vous avez l'impression de penser constamment. » Et c'est vrai, c'est-à-dire que à force de passer son temps dans les médias, donc tout le temps qu'il passe dans les médias, c'est quand même un temps qu'il passe en moi à réfléchir, à écrire, à penser. Et donc forcément, il finit un petit peu, comme beaucoup d'intellectuels médiatiques, par raconter systématiquement la même chose. Alors bien sûr, ce qu'il dit sur Hollande est très pertinent, et je suis en partie d'accord avec son propos sur le fait que le PS n'est plus de gauche, mais enfin... Bon, on le sait depuis longtemps, et le fait de dire ça, je ne suis pas, étant donné qu'il n'y a pas de solution alternative, si ce n'est son socialisme libertaire, qui est encore une fois n'est pas une mauvaise idée, mais qui est tellement au stade d'ébauche que bon, on aimerait bien savoir où ça nous mène. Voilà que du coup le propos en perd toute pertinence. Et puis après, il y a quand même sur le fond, ça c'est le second aspect, je pense, une forme, disons, de céder à l'ère du temps intellectuel, c'est-à-dire que il a compris, étant donné, encore une fois...
Ce qui, médiatiquement parlant,
voilà,
fonctionnait.
L'effet d'exaspération... Non, parce qu'encore une fois, ça revient avec ce que tu disais, Léo, c'est-à-dire une espèce d'effet d'exaspération. C'est-à-dire que quand vous passez votre temps Mettons, quand il y a quand il y a eu ces attentats de Charlie et que tout le monde dit que l'islam est une religion de paix et de tolérance. En soi, c'est faux. C'est-à-dire qu'aucune religion, même le christianisme, n'est une religion de paix et de tolérance, pas plus qu'une religion est systématiquement une religion de guerre. Je veux dire, les religions sont des éléments composites et contradictoires, ce que lui-même avait dit dans son traité de la théologie avec un certain sens. Donc, quand vous avez ce discours médiatique qui est assez pénible sur le fond, on peut comprendre que des gens soient séduits par quelqu'un qui vous dit le contraire. Sauf que dire le contraire n'est pas être plus juste.
Oui.
Il en arrive à raconter strictement n'importe quoi sur l'islam et sur des tas d'autres sujets qui sont aussi médiatiques. Mais c'est pareil, il le joue aussi cette provocation. Quand il fait son tweet, par exemple, encore un média sans intérêt, Twitter, désolé, où il...
Finis ta phrase.
Oui, je termine. Où il se moque de la théorie du genre. Bon, il sait très bien que ça va lui rapporter une certaine clientèle dans un certain milieu.
Oui, oui.
Voilà.
Eh bien, chers auditeurs, il est temps de conclure. Merci à vous, Jérémy, Léo, Maxime et Quentin. Et pour vous trois, c'était votre baptême du feu à la radio, donc bravo à vous.
Avec plaisir.
J'espère, chers auditeurs, que ce premier numéro de L'Amplifié vous a plu. Retrouvez-nous dans 2 semaines sur Transistor, où, comme je vous l'ai dit, vous découvrirez quelques nouveautés. Et dans le prochain numéro, ce sera une nouvelle voix que vous entendrez lors des éditos. Merci à Rémi, à la technique. Et merci à Mathias de NS Media qui a aidé Transistor de nombreuses années, qu'il en soit remercié, on pense à lui.